Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais commencer avec deux petites questions, deux questions toutes simples qui, si on y répond selon la Bible le montre, peuvent vraiment bouleverser votre vie, changer complètement votre direction. Et ces deux questions, c'est qui est Jésus? Et qu'est-ce que ça change pour moi? Qui est Jésus? Et qu'est-ce que ça change pour moi? Et en fait, Jésus lui-même, pendant son ministère sur terre, a posé presque la même question. Il a dit en Matthieu 16, qui dites-vous que je suis? Et honnêtement, tout le monde ici, ce matin, tout le monde est en train d'y répondre. Tout le monde a une réponse à cette question. Tout le monde ici est en train d'y répondre d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous n'y jamais vraiment pensé, mais quand même, pas votre manière de vivre. Vous êtes en train d'y répondre. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Et qu'est-ce que ça change pour moi? On va chercher à répondre à cette question en regardant ensemble un grand thème de la Bible. On va surtout concentrer sur un passage, Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20. Le sujet de ce message, celui qu'on m'a demandé de traiter, c'est la souveraineté du Christ sur son création. Et quand j'ai vu le thème pour la première fois, j'ai mal lu et j'ai cru que c'était la souveraineté de Dieu en général, mais Florent m'a correcté. Et bien sûr, les deux sont liés, absolument, parce que Jésus est Dieu. Mais il y a quand même une différence et on va en parler un peu plus tard. Alors, ouvrez vos Bibles, Colossiens, chapitre 1. Ce ne sera pas vraiment une prédication verset par verset. Si je prêchais à travers tout le livre, je ferais autrement. Mais maintenant, on va plutôt explorer un thème, une doctrine, la souveraineté du Christ, en s'appuyant surtout sur ce texte pour nous guider. Alors, on va commencer en lisant ensemble le passage. Le Fils est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, enfant d'être en tout le premier, que Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, et en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Je disais tout à l'heure que la réponse à la question qui est Jésus peut, ou plutôt devrait, complètement changer votre vie. Et beaucoup parmi vous vont être d'accord sans hésiter. OK, pas de souci, je suis d'accord. Mais peut-être il y a certains qui disent, je ne sais pas trop, qu'est-ce que Jésus, un homme d'il y a 2000 ans, a à voir avec moi aujourd'hui? On est en 2025. Et puis, il y a sans doute d'autres ici qui partageaient pleinement cette idée, mais uniquement sur leur tête. En gros, vous direz que Jésus devrait tout changer dans la vie de quelqu'un, mais votre propre vie ne le montre pas vraiment. C'est-à-dire, votre manière de vivre n'est pas si différente de celle de vos collègues au travail ou des voisins qui ne croient pas. Le premier groupe pense peut-être que Jésus, oui, c'était un homme bien, un bon prof de morale, quelque chose comme ça, mais rien de révolutionnaire. Le deuxième groupe pense peut-être que Jésus a déjà changé ma vie. Il m'a sauvé, il m'a pardonné. C'est fait. Maintenant, passons à l'autre chose. Ce deuxième groupe, ce n'est sans doute pas vraiment un groupe, mais plutôt un continuum. Chaque croyant, à différents moments et dans une certaine mesure, lutte avec ses priorités. Nous avons du mal à voir comment tout se rapporte à Jésus. Souvent, Christ n'a pas vraiment la première place dans nos vies. C'est un peu la même situation que vivait l'église de Colosse. Paul écrit cette lettre pour combattre de fausses idées qui commençaient à se glisser dans l'église. On ne sait pas exactement de quoi il s'agissait, mais pas complètement clair. En fait, lire les épîtres, c'est un peu comme écouter une conversation téléphonique, mais d'un seul côté, n'est-ce pas? Quand j'attends ma femme au téléphone, en général, au bout de 2-3 minutes, je peux deviner à qui elle parle et à quoi il s'agit, parfois. Mais parfois, franchement, c'est pas si évident que ça. Et si nous lisons attentivement l'Épître aux Colossiens, nous remarquons certains éléments concernant cette fausse doctrine. Okay? On y perçoit une tendance à minimaliser la personne de Christ. On y trouvait la promotion de l'ascétisme, l'observance du sabbat, l'insistance sur la circoncision et même le culte des anges. Et dans tout cela, on s'éloignait peu à peu de Jésus, la tête de l'Église. Paul les rappelle donc à l'ordre. Et à partir du verset 9, il commence à leur partager sa prière. Puis, sans réelle transition, il passe à une sorte d'hymne sur la grandeur de Christ à partir du verset 15 et suivant. Ainsi, ce matin, alors, que nous posons la question, qui est Jésus? Nous allons nous concentrer sur trois aspects. La souveraineté de Jésus en tant que Dieu, puis la souveraineté de Jésus en tant qu'homme. Et enfin, la question est alors, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui? Regardez avec moi à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Je vais lire le texte encore. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors, d'abord, on voit ici que Jésus est souverain sur la création en tant que Dieu. Il est l'image de Dieu invisible. Dans ce contexte, cela signifie que Jésus, dans son être même, révèle qui est Dieu. Jésus dit dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit également, « Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Jésus révèle le Père parce qu'il est de la même nature que lui. Il est Dieu, le Dieu de l'univers et trinitaire, bien sûr, le seul Dieu, un seul Dieu en trois personnes. On le sait bien. Et ce que la Bible nous montre, y compris dans ce passage, c'est que les différentes personnes de la Trinité remplissent des rôles distincts. C'est vrai dans la création, c'est vrai dans la rédemption et dans plusieurs autres domaines encore. Et ici, dans notre passage, nous voyons que le Fils est l'agent de la création. Et on voit que Dieu, le Père, a créé toutes choses par lui, par Jésus, et pour lui. C'est pour cela qu'il nous dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Cela ne veut pas dire que Jésus a été le premier être créé, comme l'enseignent les témoins de Jéhovah. Cela veut dire qu'il est au-dessus de toute la création, qu'il est le souverain. Dans la culture ancienne, le fils premier-né recevait une plus grande partie de l'héritage et occupait une position élevée dans la famille. C'est pourquoi le terme premier-né est souvent utilisé de manière métaphorique pour exprimer la suprématie. On le voit, par exemple, lorsque Dieu appelle David, David qui n'était pas l'aîné de sa famille, le premier-né dans Psaume 89, verset 28, et lorsque il appelle Israël, qui n'était pas le premier nation à exister non plus, mon fils premier-né. On a vu ça il y a quelques mois dans notre série en Exode. Il est au-dessus de la création. Il est le souverain parce qu'il l'a créé. Il a tout créé. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 3, le dit encore plus explicitement. Toute chose ont été faites par elle, c'est-à-dire la parole, Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean nous donne ici deux catégories. Okay? Les choses qui ont été créées et les choses qui n'ont pas été créées. C'est comme deux boîtes, si vous voulez. Et qui entre dans la boîte? Choses qui n'ont pas été créées. Bien sûr que Dieu. Et dans quelle boîte mettez-vous Jésus? Les témoins de Jéhovah aimeraient le placer dans la boîte choses créées, mais le texte ne le permet pas. Il dit que tout ce qui a été créé l'a été par Jésus. Donc, il est impossible de dire que Jésus fait lui-même partie de ce qui a été créé. Vous voyez cela? Ce n'est pas le point principal du message aujourd'hui, mais c'est important de noter. Jésus n'a pas été créé. C'est lui qui a créé toutes choses. Jésus est Dieu. Comme Paul le dit plus bas, au verset 19, que Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Paul répète une idée très proche en chapitre 2, verset 9, qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est une déclaration incroyable. La plénitude de Dieu habite en Jésus. Le mot « plénitude » ici fait probablement référence à la nature et aux attributs de Dieu. Tout au long de cet hymne, ou de cette confession de foi, Paul met donc en lumière la divinité du Christ. Je pose une question qui nous conduit au cœur de l'idée de la création. Pas seulement de ce passage, mais aussi de la création en Genèse. Que nous dit l'acte de créer sur ce qui est créé? Quand j'étais gamin, j'habitais au bord d'une route assez passante et les gens laissaient souvent les vieux meubles, les trucs cassés, les canapés, des choses comme ça, au bord de la route pour les éboueurs. Et si on voyait quelque chose qu'on voulait, on pouvait le prendre. Et moi, dès que je voyais en vélo, je les récupérais pour les pièces, pour le réparer. Et en été, mon vélo commençait à devenir trop petit. Et un jour, j'ai trouvé un vieux vélo, un VTT, qui quelqu'un avait jeté. Il était en mauvais état, il manquait des morceaux, avec des pièces des autres vélos que j'ai eu à ce temps. Avec l'aide de mon cousin, on a réussi à bricoler un qui roulait. Et j'étais super fier. Avant, c'était de la faraille. Mais maintenant, c'était le mien. Et je l'ai laissé sur le perron quelques minutes. Je suis rentré prévenir ma mère. Et quand je suis ressorti, plus rien. C'était volé. Et j'étais abattu. C'est très triste. Je me souviens très clairement. Mais pourquoi? Ce vélo, c'était de la faraille. Est-ce qu'il m'appartenait vraiment? Je n'ai pas acheté. Mais bien sûr que oui. Parce que c'est moi qui l'a fait. Et si c'est vrai pour moi avec quelques vieilles pièces de vélo, combien plus fort raison pour Dieu, lui, et pas juste bricoler quelque chose qui existait déjà. Il a créé l'univers à partir de rien, simplement en parlant. Alors, tout est à lui. Le monde est à lui. Et nous aussi, les êtres humains qu'il a créés, nous appartiennent à lui. Il nous a fait, et ça veut dire qu'il a autorité sur nous. Le monde appartient à Jésus, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui le possède. C'est lui qui a l'autorité sur la terre. Et cette autorité s'étend même au trône, aux dignités, domination, autorité, dont parle le verset 16. Paul pense sûrement aux puissances invisibles du monde spirituel. Non seulement Jésus les a créées, mais l'Écriture ajoute plus loin, le prochain chapitre en fait, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors, qu'est-ce que tout ça devrait nous mener? Où est-ce que tout ça devrait nous mener? Je pense que c'est à lui faire confiance. À lui faire confiance. On ne suit pas un chef bien intentionné, mais impuissant. Non, on suit Jésus, et lui, il est puissant. Jésus est tout puissant. Les évangiles le montrent encore et encore en fait. Dans Marc chapitre 1, verset 27, les gens sont stupéfaits et disent, ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et quelques chapitres plus loin, il démontre sa puissance sur la nature aussi. Il calme la tempête. Et les disciples, complètement bouleversés, se demandent, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est incroyable. Et notre confiance grandit encore quand on se rappelle que tout tient ensemble en lui. Paul dit, tout subsiste en lui. Ça montre qu'il soutient tout jusqu'au moindre détail. Et ce n'est pas juste une idée générale et lointaine, mais en fait, c'est une fête qui est très personnelle. Très personnelle. Jésus, dans Matthieu 10, nous parle de l'attention de sa père. Il dit, « Ne vendons pas deux passereaux pour en sous. Cependant, ils n'en tombent pas en terre sans la volonté de votre père. Et même vos chevaux sont tout comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Nous pouvons vraiment lui faire confiance. Mais jusqu'au présent, l'autorité et la souveraineté dont on parle ne sont pas très différentes de celles du Père. Puisque Jésus est Dieu, il est souverain sur création comme Dieu. C'est vrai. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus n'est pas seulement Dieu. Depuis l'incarnation, il est le Dieu-homme. Il est le Dieu-homme. Et en fait, une grande partie de ce que le Nouveau Testament nous dit sur l'autorité et la souveraineté de Jésus est directement liée à qui il est et à ce qu'il a fait en tant qu'homme. Et ça, c'est intéressant, ça, c'est incroyable, mais on va le voir. Si on regarde un peu plus bas dans notre texte, surtout à partir de verset 18, il y a un mot, qui devrait vraiment nous choquer. Un mot qui, en réalité, ne nous choque plus, généralement, parce qu'on s'y est habitué. C'est un peu comme une odeur dans la maison. Au début, on la sent, puis au bout d'un moment, on y fait plus attention, n'est-ce pas? Et quand on part quelques heures et quand on revient, et là, soudain, ça saute au nez. Eh bien, c'est pareil avec cette vérité biblique même. On les connaît tellement bien qu'on ne les rassemble plus. Alors, c'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Vous le voyez? Mort. Mort. Le texte dit, le premier-né d'entre les morts. On est en train de parler de l'image de Dieu invisible, celui par qui tout a été créé, de celui qui est avant toute chose et qui fait tout tenir ensemble, le Dieu celui en qui toute la plénitude de Dieu habitait. Et pourtant, nous sommes rappelés à cette réalité bouleversante. Il est mort. Il est mort sur la croix. Vous voyez dans ces versets, Paul met en avant la divinité de Jésus, c'est sûr. Mais il souligne aussi son humanité. Tout ce qu'il dit dans les versets 18 à 20 n'a de sens que si Jésus est incarné. Et quand on passe de sa divinité à son humanité, on ne s'éloigne pas du tout de son autorité ou de sa souveraineté. Pas du tout. En fait, avec l'incarnation, quelque chose de nouveau s'ajoute. Vous comprenez cela? une nouvelle dimension de la souveraineté du Fils. Autrement dit, comme homme, Jésus est devenu souverain d'une manière qu'il ne l'était pas avant son incarnation. Et ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est tout à fait biblique. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Vous vous rappelez qu'en Genèse, Dieu a créé l'homme à son image pour régner sous son autorité, comme une sorte de vice-roi, un fils qui reflète son père. Okay? Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28, je vais le lire en second 21. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-les. C'est l'un des grands appels de l'humanité. Représenter Dieu et régner sous son autorité en prenant soin de la création. Mais quand on lit la Bible, on voit bien que Adam et Ève ont échoué. Et plus tard, Israël a échoué aussi. Et les rois d'Israël, pareil. Et tout était appelé le Fils de Dieu dans les Écritures. Mais aucun n'a bien représenté Dieu. C'est là que Jésus, le vrai Fils de Dieu, entre en scène. Il a réussi là où Adam, Israël et les rois ont échoué. Il est le deuxième Adam. Le nouvel Israël, le vrai roi selon David. Et le Nouveau Testament montre que l'exaltation de Jésus comme un roi humain est directement liée à sa mort et sa résurrection. Et cette exaltation lui confère une position messianique, publique, qu'il n'avait pas encore dans l'histoire du salut. Ok, regarde avec moi rapidement Philippiens chapitre 2. On va regarder versets 8 à 11. Philippiens 2, verset 8 à 11. Et s'étant trouvé comme un homme, il s'est humilié lui-même, se rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout dans la Bible et dans l'univers entier converge vers le royaume de ce Fils et de cette image de Dieu, Jésus. Et ce royaume est encore à venir, mais il est aussi, d'une manière très réelle, déjà présent aujourd'hui dans l'Église. Regardez au Nouveau Colossiens 1, juste avant notre passage, comme Florent a lu tout à l'heure, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Aujourd'hui, en tant qu'Église, nous faisons déjà partie de ce royaume. Nous sommes comme des avant-postes. ou des ambassades du royaume à venir. Et Jésus, lui, il est la tête de l'Église. Il est notre roi. À la fin de Matthieu, dans ce qu'on appelle la grande mission, Jésus envoie son Église dans le monde pour partager l'Évangile et témoigner du royaume. Et même dans ce passage, le langage fait écho de ce que nous venons de voir. Il dit, en verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Voilà Jésus, le roi de l'univers, le Dieu-homme, le créateur du ciel et de la terre. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui disent oh, « Jésus, oui, c'était un bon prof de morale. » Quelque chose comme ça, mais franchement, ça ne tient pas la route. C.S. Lewis, l'auteur des fondements du christianisme et les chroniques de Narnia, a dit que bon enseignant moral n'est pas une vraie option. Jésus a affirmé être Dieu. Il a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il a dit dans l'évangile de Jean « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Il a dit « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Il dit dans l'évangile de Matthieu « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est de ce Jésus que Paul dit que tout l'univers a été créé pour lui. Du coup, Lewis a bien résumé les choses. Jésus est soit menteur, soit fou, soit seigneur. Ça s'appelle le trilemme de Lewis. Et s'il n'est pas Dieu, alors qu'il ment en disant qu'il est le Fils de Dieu. Ou bien, il est fou, croyant qu'il est le sauveur du monde. Ou bien, il est vraiment Seigneur. Dieu fait homme. Les deux premières options ne méritent ni notre confiance, ni notre adoration. Aucun menteur, aucun fou ne pourrait être un grand enseignant moral. Alors, si on insiste pour dire qu'il était un bon enseignant, il reste une seule conclusion. Jésus est Seigneur, le roi du ciel et de la terre, digne de notre entière confiance. C'est pour ça que la façon dont vous répondez à la question « Qui est Jésus ?» peut, devrait complètement bouleverser votre vie. Il n'est pas juste un homme qui a vécu il y a 2000 ans, il a prouvé qui il est en ressuscitant d'entre les morts, comme le texte dit. Il est le Dieu de l'univers qui est entré dans l'histoire humaine par amour pour nous. Et souvenez-vous de ce que dit notre texte au verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jésus est venu faire la paix. Il est venu vous réconcilier avec le Père. Vous qui étiez autrefois loin de lui, ennemis dans vos pensées, dans vos actes, c'est en lui seul que vous trouverez le pardon et le vrai paix. Et c'est dans votre union avec lui que vous découvrez le vrai sens de votre vie. Peut-être il y en a parmi vous qui ont déjà choisi de suivre Jésus, c'est sûr. Et vous avez reçu par la foi le cadeau de la vie qu'il offre. Mais peut-être qu'au fond, sans forcément le dire à voix haute, Jésus est devenu pour vous un peu comme un ticket de pardon, un billet pour le ciel. Et depuis, vous avez avancé sans trop penser à lui au quotidien. Vous ne réfléchissez pas trop à ce que Jésus a à voir avec votre vie d'aujourd'hui, avec votre travail, vos choix au quotidien, vos loisirs même. Quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, tout doit bouger. Tout doit être réorganisé parce qu'il est le Seigneur de l'univers. Pensez à l'arrivée d'un bébé. Demandez n'importe quel parent, quand un bébé arrive, tout change. Les nuits deviennent courtes, les meubles bougent, les priorités se bousculent. Parfois, toute la maison se met à tourner autour de cette nouvelle vie. Alors, combien plus fort raison quand Jésus entre dans une vie? La vie devrait être réorganisée. Il ne vient pas simplement s'ajouter à nos habitudes. Ce sont nos habitudes qui doivent s'ajuster à son règne. Il n'est pas un simple ajout à notre vie. Et pour reprendre une image de Jésus, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Connaître Jésus, ça bouleverse tout. Mais j'aimerais finir ce matin avec une image du Nouveau Testament qui pousse cette idée encore plus loin. Connaître Jésus fait partie de son royaume. Ce n'est pas juste une question de réorganisation, en fait. C'est une question de mort. Dans l'économie du royaume, la logique du royaume, l'exaltation passe par la mort. Dans Matthieu 20, Jésus parle avec la mère de Jacques et Jean. Il lui demande, « Que veux-tu ? » Elle répond, « Dis que mes deux fils soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Il répond, « Nous le pouvons. » Je rigole chaque fois que je lis ça. « Nous le pouvons. » Mais ce que me frappe le plus, ce n'est pas seulement ce moment-là, mais le fait qu'on retrouve exactement les mêmes expressions plus tard. 6-7 chapitres plus loin. Savez-vous où on lit encore l'un à la droite et l'autre à la gauche? C'était à la croix. Matthieu 27, verset 38. Alors, un coup se fia avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Je crois que Matthieu et Marc aussi, qui rapportent la même chose, veulent que nous fassions le lien. Le royaume de Jésus vient par la croix, par la mort. Son exaltation n'est pas venue d'après son humiliation. Le Père l'a exalté à cause de sa mort humble. Et cela révèle quelque chose de profond sur l'économie du royaume de Dieu, c'est-à-dire sur la logique ou le fonctionnement du royaume de Dieu. Si nous cherchons à nous élever nous-mêmes, nous serons abaissés. Mais si nous venons à Jésus, si nous mourons à nous-mêmes chaque jour, si nous prenons notre croix, comme il dit à ses disciples, alors nous serons exaltés avec lui. Jésus est Seigneur. Il est le Créateur, le Roi de l'univers, et il offre une joie immense, éternelle, en lui-même. Être uni à Jésus, ce n'est pas juste ajouter une petite touche spirituelle à sa vie. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus doit être au centre de tout. Il doit être prééminent. Prions. Merci Seigneur. Merci pour qui tu es. Sois au centre de nos vies cette semaine. Merci pour ce que tu as fait sur la croix pour nous. Merci pour ton amour. Aide-nous à tu mets au centre de nos vies. Amen.